Vous écoutez
RMC.
RMC.
Tant qu'on perd pas, on est content, mais tant qu'on gagne pas, on n'est pas heureux.
I will finish now and I will go to IKEA, go for them, to help my wife to choose the things.
Bah, Olivier Carpin, un match de Coupe d'Europe africaine. Ah, oui.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit en direct sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot, l'After, votre espace de liberté à vous les supporters. Au 32-16, on vous attend avec Florent Gautreau qui est là, salut Florent.
Salut à tous.
Et avec Walid Acherchour, salut Walid.
Salut Gilbert, salut à tous.
Alors l'événement ce soir dans l'After, c'est la journée de Ligue 1 du week-end. Bien sûr, vous le savez, pas de match aujourd'hui, dimanche 5 mai, pour se souvenir du drame de Furiani en 92. Nous allons débattre de Ligue 1 pendant 2 heures ensemble. Walid veut donner son avis sur les soucis d'arbitrage hier. On donnera aussi notre avis sur la course aux places européennes, sur le maintien. Et on parlera de Rennes. Florent veut notamment en parler. Et puis à 48 heures du match retour de Paris face à Dortmund, une question en débat. Comprenez-vous le désamour des supporters parisiens envers Kylian Mbappé? On n'a pas eu le temps de prendre le temps de faire ce débat depuis quelques jours. Il y a eu beaucoup de matchs, donc on va le faire ce soir. 32-16, direct studio.
C'est pas comprenez-vous qu'il soit évident qu'il y ait une forme de désamour?
Ah, pour toi, c'est évident qu'il y a une forme de désamour.
Bah, c'est logique. Après on peut considérer néanmoins, on en parlera, que c'est pas définitif et que c'est peut-être un peu du dépit amoureux, mais force est de constater qu'il fait pas tout pour se faire aimer en ce moment.
Et puis on parlera dans quelques instants également de la disparition aujourd'hui de Melotti, entraîneur emblématique de l'histoire de l'Argentine et du football en général, lui qui était champion du monde avec l'Argentine en 78, César Luis Melotti, ce sera dans quelques minutes. Et puis on a, outre les directs foot, on a de la F1 ce soir. Direct foot, c'est notamment Roma-Juve, hein, il y a un partout actuellement entre les deux équipes, et puis également un match au Portugal qui pourrait emmener le Sporting au titre de champion ce soir. C'est Famalicão Benfica. Si Benfica ne gagne pas ce soir, eh bien le Sporting serait champion. Il y a actuellement 0-0, donc pour l'instant c'est le cas. Et puis de la F1, la légende Jean-Luc Roy est parmi nous dans le studio. Walid, tu connais Jean-Luc?
Bien sûr. Salut Gilbert, salut Walid, salut Florence,
salut tous. Jean-Luc. Grand Prix de Miami, départ imminent. Jean-Luc, on va te laisser nous régaler.
Eh ben j'espère, écoute, en tout cas les pilotes sont sous les ordres du starter. On va partir pour 57 tours de ce tracé long de 5 km 412. Alors, en pole position, vous le savez, Verstappen devant Leclerc, et voilà, c'est parti avec un très bon départ de Verstappen, un mauvais départ de Charles Leclerc, qui est devancé immédiatement, semble-t-il, par Carlos Sainz. Attention, le freinage de Pérez à l'extérieur, il s'est récupéré, il a touché personne. Verstappen est devant pour le moment. L'autre Ferrari se trouve au quatrième rang avec Carlos Sainz. Pérez, après son tout droit, se retrouve 5e, devant Norris 6e, Hamilton 7e. C'est bien parti donc pour Verstappen pour le moment, qui a profité au maximum de la position. Leclerc s'est bien récupéré après l'erreur de Pérez tout à l'heure, qui avait tiré tout droit, qui a essayé de prendre tout le monde au freinage dans le premier virage, mais ça n'est pas passé. Donc Verstappen profite au mieux de la pole et commence déjà d'ailleurs à creuser un écart sur la Ferrari de Charles Leclerc. C'est Piastri qui a pris un très bon départ également. Piastri qui s'était lancé depuis la 6e position sur la grille de départ, qui est à actuellement 3e devant Carlos Sainz. Pérez toujours 5e pour le moment. À signaler que au niveau du choix des pneus, tout le monde part en médium, sauf, et c'est très important, Lewis Hamilton. Depuis la 8e position sur la grille de départ, Lewis a choisi les pneumatiques durs. Donc on peut s'attendre naturellement à ce que son relais soit plus long. Attention, les deux Alpines au côte à côte. Ouh là 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 là, on se frictionne entre les deux pilotes. Là, personne ne veut lâcher. Heureusement, ils ne sont pas touchés pour le moment. Ça a été chaud là entre Gasly et Ocon pour le moment. 13e Gasly et Ocon 14e. Ah, j'ai eu peur qu'il se touche là au ras du mur, hein, Gilbert.
Ouais, et puis Pérez, on aurait dit Jérôme Rotter au carrefour de la Coupe Boulevard quand il vient à RMC. Il a pris tout droit.
mais il s'est rattrapé, comme oui, Jérôme.
Et ça continue. Entre les deux pilotes alpines, on ne s'est pas fait de cadeau. Là, je peux te dire que, bon, heureusement, j'en connais là, dans les stands qui ont dû transpirer très très fort. Et on va boucler le premier tour de ce Grand Prix de Miami. Donc, oulala, c'est également chaud. Un petit peu plus loin derrière, entre Lewis.
C'est Verstappen qui va gagner.
Hamilton et Nico Hülkenberg. Et Verstappen est devant. 1 seconde 4 d'avance hein, pour le moment. À l'issue de ce. On est entré dans le deuxième tour.
On va pas dire
tour.
Que c'est déjà plié, Jean-Luc.
On va pas le dire. On va pas le dire. On va attendre un petit peu. On va voir surtout quel est le rythme que peut adopter Charles Leclerc. Parce qu'en course, Hamilton, Verstappen se plaignait hier d'avoir des problèmes de motricité, d'avoir cramé ses roues arrière. Donc on va voir quelle va être la durée de son premier relais. Ça, c'est un petit peu la clé de la course. Normalement, il n'y a qu'un arrêt de prévu, hein, parce que la piste n'est pas très abrasive à Miami. Donc, a priori, les pilotes devraient arriver à gérer sur la durée de la course. Et je répète, Hamilton va rester en piste plus longtemps que ses rivaux parce qu'il a monté un train de pneumatiques dur. On avait également un pilote qui était parti en pneu soft. Et c'est Bottas, mais Bottas, il est 19e. Donc, a priori, il ne va pas trop peser sur le déroulement de la course.
Il y a deux flics à Miami, mais Ocon et Gasly, ce n'est pas à Miami.
Pas mal. Écoute,
c'est un peu chaud quand même. Hein.
C'était très chaud, mais ils sont pas touchés. Heureusement, j'ai eu peur avec la sortie du mur là, du virage 14. Heureusement, il lui a laissé juste ce qu'il fallait, mais on s'est frictionné, on va dire ça comme ça. A priori, pas de dégâts.
Mais comment tu sais que c'est le virage 14?
Ben, parce que je connais un peu le circuit.
Il est fort.
Tu as dit, il nous aurait dit virage 12, on lui aurait pas dit.
Oui. Attention, c'est virage 14. Je vais vous dire, c'est le 13. Allez, on va se mettre d'accord comme ça. Non, alors, pour le moment, toujours Verstappen leader. On est entré dans le troisième tour avec une avance qu'il a portée à 1 seconde 6. Il est un petit peu plus rapide, mais pas tellement. Il prend seulement 2 dixièmes au tour pour le moment à Charles Leclerc en deuxième position. Celui qui est très rapide, c'est Oscar Piastri, le jeune Australien de l'équipe McLaren qui, je vous l'ai dit, a pris un excellent départ. Et c'est lui l'homme le plus rapide en course. En 1:32, 827 pour le moment, il est en train de refaire son retard sur Charles Leclerc. Donc attention à Piastri, je répète. Donc Verstappen premier, Leclerc deuxième, Piastri troisième, Sainz avec la deuxième Ferrari quatrième, Pérez est cinquième après son départ un peu tonitruant, Norris sixième avec l'autre McLaren, Hülkenberg septième, excellent, Hamilton huitième, Tsunoda neuvième, Russell dixième et du côté des Français, Gasly est maintenant douzième et Ocon quinzième. Je me demande si quand même la monoplace d'Esteban n'a pas un petit peu souffert de ses frictions.
Et il est toujours là le fils à papa, là, Lance Stroll.
Ah, Lance Stroll, oh là là, vous êtes dur. Et il est 11e, c'est pas nul du tout. Oh, hein. Il est 11e,
J'ai cru comprendre que sa place était un peu.
Usurpée. Le mot est un peu fort. Disons qu'il est brouillon, le garçon, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des grands prix où il est un peu en vrac. Il y a tout, mais c'est pas bien rangé. Donc, forcément, il y a des fois où ça pose problème, oui.
Bon, bah, tout à l'heure, pour refaire un point, bien sûr, tu restes avec nous.
Quand tu veux.
Quand vous voulez. Je sais que t'en as pas trop, donc.
Des fois, si, parce que je suis mine de rien. Je ne dis rien, mais je suis. Bah si, le débat que tu as lancé, bon, j'ai une petite explication. Bah oui.
Très bien, mais si tu en parles.
Ah oui, j'en ai eu.
On va participer avec plaisir. Alors, on va accueillir Nicolas Cougot pour démarrer ce soir. Nicolas Cougot qui évidemment est le taulier du site Louis Carnot Posé, qui parle de tous les footballs, particulièrement du football sud-américain. Nicolas, bonsoir.
Salut Gilbert, bonsoir à tous. Salut.
Alors, on a voulu te passer un coup de fil parce qu'on a appris en début de soirée le décès de César Luis Menotti à l'âge de 85 ans. Évidemment, entraîneur légendaire du football mondial. Dans l'after, on a déjà raconté mille fois les Menottistes contre les Billardistes, l'école Menotti, champion du monde 98, l'homme
78.
J'ai dit 98, ouais. Oui, légère boulette. Mm-hmm. 78.
Première fois pour l'Argentine.
En effet, tout ça sous la dictature de Videla en Argentine. Bref, j'imagine que sur le quart d'opposé, vous allez remettre au goût du jour quelques papiers retraçant sa vie. Mais c'était un entraîneur qui a énormément compté, et pas que dans le foot sud-américain. Je reprends une de ses déclarations historiques que m'a envoyé Thibault Leplat. Menotti disait « Le football, c'est l'opéra des pauvres ». Nicolas.
Ouais. Ah, il a compté. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est quelqu'un qui. Je me souviens d'un article dans le Grafico où on lui demandait quel serait son héritage. C'est il y a très longtemps, l'article, il doit avoir 7-8 ans. Et il disait qu'il n'en aurait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi ses héritiers, il y en a un qui est très connu et il l'adorait, hein, il aimait beaucoup. Enfin, il aimait à ses débuts, c'est Guardiola, qu'il avait rencontré. Hein, ils avaient beaucoup discuté ensemble quand ils étaient allés. Guardiola était passé par Rosario. On sait tous que Guardiola a discuté avec Bielsa, mais il a discuté aussi avec Benotti. Et voilà, et je sais que Menotti disait que Guardiola avait réussi en gros ce que le Brésil 70 et ce que, entre guillemets, il voulait pas le dire, mais ce que lui non plus n'avait pas réussi, c'est-à-dire à imposer une façon de jouer, un jeu qui balayait, et ça c'est ses propos, qui balayait toutes les tricheries et les mensonges. Alors tu l'as dit hein, tout à l'heure, il y a eu ce combat Menottisme-Billardisme, c'est toute l'Argentine de la fin de siècle. Hein. parce que c'est aussi les deux premiers champions du monde.
Pour résumer, c'était un peu Menotti...
Le romantique.
Menotti le romantique, avec le jeu attaquant, et Bilardo, le pragmatique, ouais. Et la défense.
Si je peux me permettre, parlais, Nicolas, plus que ça, oui, il y a évidemment ça, hein, bien sûr, Gilbert. Il y a aussi l'idée que la victoire n'est pas tout, qu'il y a le chemin pour arriver à cette victoire. Et ça, c'est, enfin, Bielsa, c'est l'héritier de c'est un héritier de ça. Donc, il y a aussi le fait, ce discours qu'on a souvent explicité dans l'after, oui, le résultat n'est pas tout. Alors que Bilardo assumait, et il a gagné aussi, hein, comme ça, et Deschamps, c'est comme ça, de gagner, quel que soit, le style, quoi. C'est ça. Et moi, je trouve aussi intéressant, Nicolas, que ça dise beaucoup du pays de foot qu'est l'Argentine. Parce que est-ce que nous, on a ce style de débat, tu vois, qui structurerait la France du foot, c'est pas le cas.
On essaie de l'avoir. Un débat d'Ultra Girard, mais j'étais d'accord.
Non, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas, tu vois, ces deux courants aussi forts et deux personnalités aussi fortes, Nicolas, tu vois, en France.
Non, on est complètement d'accord et c'est hyper important cette notion de processus, parce que même lui dit que, je sais que souvent la question, c'est une question qui est souvent évoquée, par exemple tu parlais de Bielsa, mais c'est la même chose. Bielsa, on dit mais Bielsa il a jamais rien gagné. Bon, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Mais cette notion de gagner autant de titres, lui c'est pareil, quand on lui demandait si ça l'affectait, il disait la seule chose qui m'importe c'est que je puisse gommer les défauts qui permettent à un joueur de progresser. Et voilà, vraiment cette notion de processus. Et par contre, ce qui est hyper important sur le point sur lequel il faut vraiment insister, parce que forcément, les jeunes générations ne savent pas forcément, mais il a imposé un certain style de jeu, une certaine philosophie. Vous l'avez dit tous, hein, tout à l'heure. En gros, le football est un art, hein, concrètement. Il y avait un côté artistique. On va rappeler que Menotti était un homme très à gauche. Il était au Parti communiste. Être au Parti communiste dans les années 70, dans l'Argentine de Videla, voilà, je vous laisse deviner. Hein, il finissait souvent au fond du Rio de la Plata. Ah bah, et tu pouvais même prendre les vols de la mort, hein. On pouvait te balancer dans le Rio de la Plata, quoi. Donc voilà, son père était péroniste, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est très très à gauche, qui était le sélectionneur et qui donc a imposé cette façon de jouer de l'Argentine.
Il a été sélectionneur de l'Argentine de dictateur.
Ouais, mais tu vois, il l'a fait en gagnant d'une certaine manière, c'est-à-dire que son Argentine jouait d'une certaine manière, il a mis le jeu devant tout, son équipe était très artistique, très libre, et c'est vrai que ça lui a été entre guillemets parfois reproché, le côté, oui, mais bon, lui il savait ce qui se passait, il a un petit peu protégé les joueurs, il les a mis dans une bulle, il a fait en sorte que les militaires ne viennent jamais au centre au centre où était la délégation argentine. Et certains joueurs lui ont reproché de l'avoir coupé, de l'avoir mis dans une bulle. Bon, mais il avait mis en place une philosophie qui était entre guillemets une philosophie d'artiste et une philosophie de gauche dans une sélection que les dictateurs applaudissaient. Alors ça fait partie de tous les messages cachés qu'il y a eu sur la Coupe du Monde 78 et que la dictature n'a pas vu. Donc c'est aussi ce qui a compté et c'est aussi pour ça que c'est resté dans cette notion de voilà, c'est un football très particulier, le football de Menotti, c'est très offensif, on l'a dit, c'est très il disait toujours qu'il y a quatre éléments, hein, qui sont importants en football, et que parmi les quatre, il y en a deux qui reposent que sur les individualités, c'est les défenseurs et les offensifs, et les offensifs eux doivent savoir s'exprimer. Donc il y avait toute cette notion de laisser libre cours à l'art. Et c'est vrai que dans l'Argentine de Videla, bon, c'était pas trop l'air du temps. Et on est dans une époque aussi où le football est extrêmement brutal. Le football des années 60-70 en Argentine, il est brutal. Il est symbolisé par Zubeldia et Estudiantes du début des années 70, dont Bilardo est le capitaine et qui sera ensuite, au début des années 80, il viendra après Menotti. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Menotti fait pas ses débuts, parce qu'il débute à Newell's, mais il se fait connaître véritablement avec Huracán en 73 quand ils sont champions, et il succède à Zubeldia et Bilardo, déjà. Donc il y a ce petit combat. Et voilà, il y a tout cela qui vient cela. C'est aussi pour ça, peut-être, qu'on n'a pas cet équivalent en France, parce qu'on n'a pas eu de tels débats et de tels affrontements entre philosophie et un homme qui a changé un sport à une époque parce que vraiment, si vous allez voir des images de football argentin des années 70, c'est terrible. Mais
cherche pas trop loin. Avant 98 en France, le football c'était considéré comme un truc de beauve décérébré.
C'est vrai.
Donc ne serait-ce que penser, c'était pas inconcevable en fait. C'était pas.
Non, mais surtout on n'a pas eu.
Alors qu'en fait, il y avait des confrontations entre par exemple Georges Boulogne.
Voilà. Il n'y a pas eu trop de confrontations. Plutôt, il y a plutôt.
Thibault Leplat a écrit un bouquin là-dessus sur l'école française.
Il y a plutôt eu des courants. Non, mais il y a plutôt eu des courants successifs en France. C'est-à-dire, il y a eu Batteux qui a été important.
C'était Batteux Boulogne. Voilà.
Bateau Boulogne, et après t'as aussi
Menotti Bilardo à notre échelle.
T'aurais pu avoir s'il y avait une culture foot, t'aurais pu avoir de beaux débats, par exemple Suodo versus Jacquet, par exemple. Quand tu regardes le jeu à la nantaise, pensé par Suodo, mais enfin par Arribas déjà, puis par Suodo, les héritiers de Noex, versus ce qui s'est passé finalement dans les années 90 avec Aimé Jacquet et la DTN. Très intéressant parce que Jacquet a essayé de faire un petit peu une synthèse en prenant des Nantais, tu sais, dans l'équipe de France. Il n'a pas réussi. Donc il aurait pu avoir ce débat si on avait eu, on va dire, suffisamment, si on avait été suffisamment un pays de culture foot. Mais on n'était pas à ce niveau-là au niveau de l'Argentine.
Chose, genre, un gars comme Luis qui était très inspiré de l'Espagne et de ce qui se faisait en Espagne, il avait aussi son style et sa façon de jouer à lui. C'est innovant. Bon, bref. Giroud,
après, on est peut-être aussi sur ce débat parce qu'on est sur deux champions du monde.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que l'histoire s'écrit aussi après. Ce qui est dingue, c'est ce que tu dis, c'est que ils sont déjà imbriqués tôt. Parce que ça n'a pas été c'est un très beau joueur, mais pas un grand joueur.
Non.
Et en revanche, un entraîneur. C'est marrant. J'ai vu que son surnom c'était le Flaco.
Pastore. Comme Pastore, ouais.
Mais lui, c'était plus. Voilà, ça m'a fait penser à ces coachs qu'on voit là. Aujourd'hui, pas forcément des grands joueurs, tu sais, mais qui deviennent de très très bons coachs. Et c'est vrai que devenir que les deux soient champions du monde, alors qu'en gros ils ont ferraillé, on va dire, sur des terrains un peu identiques, c'est assez intéressant.
Après, mais Nico, juste une question, il était DTN de la dernière Coupe du Monde aussi, non ?
Exactement, il est revenu. En fait, je crois que son dernier véritable poste d'entraîneur, ça doit être 2007, je crois. Et depuis, il faisait rien. Et il a été nommé directeur technique des sélections en 2019.
Okay.
Et donc c'est lui avec le board qui a renouvelé Scaloni, justement, parce que Scaloni normalement c'était un intérimaire. Hein.
Oui, bien sûr.
Ils l'ont renouvelé à ce moment-là jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Donc, en gros, tu peux dire qu'il est champion du monde.
Voilà.
2022.
Donc ça fait un palmarès en plus pour Menotti dans un registre. Non, mais dans un registre différent. C'est-à-dire que dans deux grosses consécrations de l'Argentine, il en a fait partie.
C'est ça, exactement.
Bah écoute, merci pour ce petit rappel historique. Puis je vous renvoie au site Lucarne Opposé, bien sûr, où vous retrouverez toute l'actu du foot sud-américain. Vous allez faire un truc sur Menotti, du coup ?
Oh bah oui, il y a quelques articles qui sont déjà dans la maison, donc on va les ressortir un petit peu. Et oui, forcément, on est obligé. Menotti, c'est Menotti, quoi. Un homme, c'est sans commune mesure, et voilà. C'est
un gars qui a énormément compté dans l'histoire du foot.
Ouais, complètement.
Et oui, puis cette année, on a Beckenbauer qui est décédé et qui était champion du monde. Menotti, du coup,
et Zagallo. Et ce qui est intéressant sur les débats qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'on aura sur Mbappé tout à l'heure, moi je trouve que c'est vraiment le fondement de nos débats foot d'aujourd'hui avec les ballons d'or, les récompenses individuelles et versus le collectif, qui moi m'importe plus que tout le reste. C'est justement que quand t'as eu Maradona après, c'était compliqué de construire la sélection autrement qu'en gros on joue pour Maradona comme après on joue beaucoup pour Messi et comme. Plus collectif en 78, enfin toi, quelque chose de plus collectif, des équipes qui ne comptaient pas seulement sur un seul joueur. Je trouve que c'est intéressant, on regarde ce qu'on va avoir tout le temps en France sur Mbappé, de savoir comment tu construis ta sélection ou comment tu ne la construis pas quand tu as un joueur aussi emblématique.
Ça va requérir un entraîneur particulier parce que tu vois, par exemple, Menotti n'a jamais construit. Par exemple, 82, il a Maradona, il n'y arrive pas. Il n'a pas convoqué en 78, mais 82, il n'y arrive pas. Et quand Bilardo arrive, il construit une équipe autour de Maradona, il est champion du monde.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Merci, Nico. Nicolas Coupe,
je vous en prie, merci les gars.
Bonne soirée, à très bientôt dans l'After. Dans quelques instants, on est de retour pour parler de l'arbitrage du week-end. Bon, Olivier, de vous en parler. Puis, point foot, point F1 également à suivre.